France Culture.
Et nous retrouvons Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Comment lutter contre les accidents mortels au travail? Le ministère a dégagé plusieurs orientations visant notamment la responsabilisation des employeurs et la protection des publics les plus vulnérables. Un plan est en cours de finalisation. On tâchera de savoir ce qu'en pensent les inspecteurs du travail. À suivre également les chiffres vertigineux de la pauvreté en France. On s'intéressera par ailleurs aux soupçons d'emplois fictifs au canard enchaîné. L'actualité à l'étranger, c'est en particulier cette nouvelle échéance pour les droits de douane américains qui prolonge. On le verra, l'incertitude et l'instabilité. Et puis on se rendra en Espagne où un incendie a déjà dévoré plus de 2300 hectares de forêt. C'est un fléau dont on parle assez peu et pourtant le nombre d'accidents mortels au travail en France ne baisse plus, voire même augmente. Quelques chiffres suffisent à saisir l'ampleur de cet enjeu. Pour la seule année 2023, ce sont plus de 800 salariés qui ont perdu la vie. D'ici une à deux semaines, la ministre Astrid Panosyan-Bouvet doit présenter aux partenaires sociaux un plan de lutte contre ce phénomène structurel quasi quotidien. Plan que vous vous êtes procuré. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors nous en parlions déjà ce matin sur notre antenne, on distingue cinq axes principaux: accroître la responsabilisation des employeurs, valoriser les entreprises les plus soucieuses de la sécurité de leurs employés, une vigilance accrue concernant notamment les jeunes avec l'obligation de formation pour tous, stagiaires ou salariés. En revanche, pas de nouveaux postes d'inspecteurs du travail mais des compétences élargies en particulier juridiquement, et puis la ministre souhaite mettre en place une prise en charge des victimes et de leurs proches. Évidemment, ce plan est très attendu par les premiers concernés, les salariés du BTP et les inspecteurs du travail, que vous avez fait réagir, Wafia, à ces annonces.
Oui, Thomas, et la première remarque porte bien sûr sur les moyens alloués. Alors, pour le moment, il y a les arbitrages budgétaires, hein, mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'il n'y aura pas de financement de postes supplémentaires à l'inspection du travail. 25 millions de salariés, 1700 inspecteurs et inspectrices, ce que regrette Frédéric Mou en charge des questions de santé et de sécurité à la CGT, le syndicaliste se réjouit malgré tout du volet concernant les appels d'offres.
C'est quelque chose, les appels d'offres de la maîtrise d'ouvrage public, ça c'est quelque chose que l'on porte depuis plusieurs années, et à savoir que l'obtention des marchés publics soit à destination des entreprises les plus vertueuses. Après, la question se pose, qui note ces entreprises? Nous, on fait les recensements d'accidents, et accidents graves et mortels, et on a des entreprises qui sortent du lot, mais pas dans le bon sens, bien sûr, et à partir de là, mais à condition qu'on nous demande notre avis, ce qui est rarement le cas.
Des mesures qui seront présentées aux partenaires sociaux, promet le ministère, et qui seront aussi scrutées attentivement par Anthony Smith, député européen LFI, et aussi inspecteur du travail. Il attend tout particulièrement la mesure qui leur offrira la possibilité d'arrêter immédiatement un chantier.
Pour faire ce texte, il suffit de rajouter un alinéa dans l'article du code qui permet les arrêts d'activité des inspecteurs du travail pour d'autres travaux, les risques de chute de hauteur. Nous le réclamons. Donc il faut le faire maintenant. Ça prend à la ministre 10 minutes pour le faire. Ça fait des années que ça aurait dû être fait, et de donner cette possibilité aux inspectrices et aux inspecteurs, c'est essentiel. Après, encore faut-il augmenter le nombre d'inspectrices et d'inspecteurs pour permettre de mettre en œuvre cette prérogative réellement lors des activités, lors du risque caniculeux.
Et parce que ces mesures ont un coût et que Bercy passera au peigne fin dans les jours prochains le budget.
Merci Wafia Kenich. Effectivement, ce plan donc est toujours en cours de finalisation sur les questions budgétaires. Une semaine avant la présentation par le Premier ministre des grandes lignes justement de son plan d'économie de 40 milliards d'euros visant à assainir les finances publiques, voilà qu'un rapport vient jeter un pavé dans une vaste mare où cohabitent parfois plans sociaux et versements de dividendes. Six mois durant, une commission du Sénat a enquêté sur les aides publiques accordées aux entreprises. Hors de son rapport remis officiellement en fin de matinée, il ressort que cette manne s'est fortement accrue ces dernières années, mais sans que personne ne contrôle véritablement l'efficacité de ces aides. Comprenez les contreparties que pourraient légitimement exiger les collectivités. Depuis bientôt 30 ans que l'INSEE mesure chaque année la pauvreté en France, jamais celle-ci n'avait été aussi élevée. Selon les chiffres publiés hier, en 2023, près de 10 millions d'habitants vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire fixé à 60% du revenu mensuel médian, soit 1288 euros pour une personne seule. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Et ça n'est pas tout, puisque à ces chiffres records sur la pauvreté correspondent également, Catherine, des écarts historiques en termes d'inégalité.
Oui, le niveau de vie des plus modestes baisse et dans le même temps, celui des plus riches est lui en hausse. Ceux qui ont le plus d'argent voient leurs ressources nettement augmenter grâce à leurs revenus financiers avec la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation des revenus d'investissement, notamment les placements et l'assurance vie, ce à quoi s'ajoute la dernière phase de l'exonération de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Pendant que les plus riches ont mieux fait fructifier leur argent, en un an, 650 000 personnes ont basculé dans la pauvreté. Et il est important de préciser que ce chiffre n'est pourtant qu'un minimum, puisque la méthodologie de l'INSEE ne comptabilise que les personnes occupant un logement ordinaire. Autrement dit, les sans domicile fixe, les personnes en foyer jeunes travailleurs ou en EHPAD ne sont pas comptabilisées. Les habitants des départements d'outre-mer et les étudiants, deux catégories particulièrement pauvres, ne sont pas non plus dans ces chiffres. L'INSEE estime que cela représente 2 millions de personnes pauvres en plus. Si l'on regarde ceux qui sont dans la situation, ceux dont la situation se détériore, on constate que les travailleurs pauvres sont de plus en plus nombreux. La baisse du chômage n'entraîne plus de réduction de la pauvreté. C'est aussi plus difficile pour ceux qui ont perdu leur emploi. Depuis la réforme de l'assurance chômage, les chômeurs sont de plus en plus nombreux à être pauvres, plus de 36%. D'une façon générale, les plus fragiles sont encore fragilisés, les enfants et les familles monoparentales dont la pauvreté a tout particulièrement augmenté. Le collectif Alerte, qui rassemble 37 associations nationales de solidarité, appelle à retrouver le sens de la solidarité nationale et à une politique globale de lutte contre la pauvreté.
Merci Catherine Pétillon. Sans transition, les milliardaires n'ont jamais été aussi riches et pourtant leurs taux effectifs d'imposition sont plus faibles que ceux du contribuable moyen. Voilà pourquoi créer un impôt plancher sur les patrimoines des ultra-riches devrait être une priorité, estiment plusieurs lauréats du prix Nobel d'économie dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. En finir avec les millefeuilles administratifs, tout en espérant que ce régime permettra aussi de réaliser peut-être quelques économies. En coach du gouvernement, c'est accompagné de pas moins de 7 de ses ministres que François Bayrou est arrivé à Chartres ce matin pour y présenter sa réforme de l'administration territoriale visant à renforcer le rôle des préfets et simplifier l'action des pouvoirs publics, en clair, décomplexifier les démarches administratives des acteurs locaux. Après avoir fait tant couler d'encre, voilà qu'elle devrait permettre bientôt l'épandage dans les champs de l'acétamipride, un pesticide de type néocotinoïde interdit en France depuis 2020, comme d'ailleurs, tous les produits de cette famille en raison de leur impact délétère sur la biodiversité. C'est aujourd'hui en effet que les députés devraient définitivement adopter la proposition de loi Duplomb, présentée comme l'une des réponses à la colère des agriculteurs de l'hiver 2024 et comme une manière de lever les contraintes à l'exercice de leur métier. Seule la gauche et les écologistes y sont défavorables, estimant que cette loi contrevient au principe même de précaution et de non-régression environnementale. C'est un peu l'arroseur arrosé, le procès pour emploi fictif au canard enchaîné doit s'ouvrir cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Deux anciens dirigeants de l'hebdomadaire satirique, Michel Gaillard et Nicolas Brimaud, de même qu'un ancien dessinateur, André Escarro, 97 ans, et sa femme sont jugés dans cette affaire. En 2022, le journaliste Christophe Nobili, déjà à l'origine des révélations sur les emplois fictifs de l'épouse de François Fillon lors de la campagne présidentielle de 2017, avait dénoncé le fait que la compagne d'André Escarro aurait bénéficié pendant 25 ans d'une rémunération du journal sans y avoir jamais travaillé. Une affaire, Fiona Mogadam, qui a provoqué depuis une profonde crise interne dans ce titre centenaire célèbre pour les nombreux scandales qu'il a dévoilés.
Et depuis 3 ans, les procédures s'enchaînent, toutes plus ou moins en lien avec cette affaire. Il y a donc le procès pour emploi fictif qui s'ouvre aujourd'hui. En parallèle, une procédure de licenciement a été engagée contre Christophe Nobili. Licenciement refusé 2 fois par l'inspection du travail et 2 autres fois par le ministère du Travail. La direction du canard enchaîné a donc saisi le tribunal administratif. Christophe Nobili a lui assigné sa direction au prud'homme pour discrimination syndicale. Il est à l'origine de la création d'une section syndicale au sein du journal. Le tribunal lui a donné raison en février dernier, mais l'avocat du canard enchaîné a décidé de faire appel du jugement. Tout cela a entraîné une ambiance décrite comme tendue au journal où les désaccords sont récurrents entre un camp qui soutient la direction, un autre en soutien à Christophe Nobili et une majorité silencieuse. Ajoutez à cela une direction instable avec 4 présidents qui se sont succédés en 1 an. Michel Gaillard en poste depuis 30 ans ayant laissé sa place en juillet 2023 à celui qui était alors son directeur général délégué, Nicolas Brimaud, tout en niant un rapport avec l'affaire d'emploi fictif. 6 mois plus tard, nouveau changement avec Jean-François Julliard qui prend la direction de l'hebdomadaire avant de la céder à Éric Amptaz, en poste depuis maintenant plus d'un an.
Donald Trump recevait à dîner hier soir Benjamin Netanyahu en marge de négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Bibi a d'ailleurs fait savoir à son hôte qu'il l'avait nommé pour le prix Nobel de la paix et lui a offert la lettre qu'il a rédigée en ce sens, qui a eu l'heure de satisfaire le locataire de la Maison Blanche. En attendant, les deux sessions de pourparlers indirects entre l'État hébreu et le Hamas organisées à Doha n'ont toujours pas permis de percées significatives. Sans compter qu'hier, le Premier ministre israélien a de nouveau répété son opposition catégorique à la création d'un État palestinien indépendant. Nouvelle illustration de la détermination intacte du président américain à bouleverser les échanges économiques de la planète. Hier, l'imprévisible milliardaire républicain a fait état de lettres envoyées à 14 pays, essentiellement en Asie, pour les informer de surtaxes punitives à compter du 1er août prochain. Sont notamment visés les pays ayant les échanges les plus déséquilibrés. C'est le cas, par exemple, de la Corée du Sud, partenaire commercial majeur des États-Unis dans la région, malgré de longues négociations qui n'ont pas encore abouti. 25% de droits de douane devraient être imposés aux produits coréens. Une décision qui fait pâlir l'économie du pays tournée vers l'export. Les précisions depuis Séoul de Célio Fioretti.
Un coup de massue pour le gouvernement coréen. 25% de droits de douane sur tous les produits coréens, en plus des 50% déjà imposés depuis quelques mois sur l'acier et l'aluminium. Dans une lettre au président sud-coréen Lee Jae-myung, Donald Trump parle de droits de douane réciproques, un terme qui fait bondir Séoul. En effet, en 2018, Donald Trump lui-même signait un accord de libre-échange avec la Corée du Sud qui depuis n'impose pas plus de 1% de droits de douane aux produits américains. Depuis quelques mois, des entreprises coréennes comme Hyundai ont commencé à investir dans des usines directement aux États-Unis pour éviter les taxes d'importation, au grand bonheur de Trump dont l'objectif est de réindustrialiser les États-Unis. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, le président coréen Lee Jae-myung expliquait que les négociations d'exemption de droits de douane ont été longues et qu'elles continueraient après la date butoir du 8 juillet. Il reste 3 semaines à la Corée du Sud pour trouver un accord avec Washington avant la mise en place de cette taxe le 1er août.
Le bilan des inondations dévastatrices qui ont ravagé le Texas s'est encore alourdi. On parle désormais de 104 morts. Le fleuve qui, vendredi dernier, s'est transformé en torrent déchaîné a depuis retrouvé son lit, mais les rives offrent toujours un spectacle de désolation où des localités entières ressemblent à présent à de vastes marécages. 2300 hectares de forêt déjà partis en fumée près de Tarragone, au nord-est de l'Espagne. Là-bas, les collines arides d'un parc naturel font face depuis hier à un incendie d'une intensité exceptionnelle et toujours hors de contrôle, le plus violent de l'été. Il faut dire que depuis plusieurs jours, le pays et la Catalogne en particulier affrontent des températures caniculaires. C'est une correspondance signée Henri Delaguéry.
L'incendie est loin d'être maîtrisé. Cette nuit, les flammes ont progressé à une vitesse exceptionnelle, attisées par le Mistral et des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Maria, au micro de TV13, n'a pas dormi de la nuit.
La nuit a été dure et très longue avec un vent horrible. On a vu les flammes descendre de la montagne et s'approcher de la station essence. On était effrayés. Si la station brûle, tout le village explose. C'est terrible.
Un immense nuage de fumée s'est formé. Il a atteint l'île d'Ibiza, 300 km au sud. L'incendie a même traversé célèbre, l'un des plus grands fleuves du pays. 300 pompiers sont mobilisés, l'armée est également sur place. Outre la chaleur, il a beaucoup plu au printemps. La végétation est donc très dense, c'est autant de combustible potentiel. Pour Enrique Adey, maire de Paouls, un village affecté, les forêts ne sont pas assez entretenues.
Les feux n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a 15 ans. On a une masse forestière impressionnante. Dans un contexte de réchauffement climatique, la politique protectionniste dans la gestion des forêts, ça ne tient plus.
À la mi-journée, 18 000 personnes sont toujours confinées. En 3 semaines seulement, 9 000 hectares ont déjà brûlé en Catalogne. C'est un record depuis 2012.
Le paysage de l'Aude, près de Narbonne, déjà noirci par deux incendies en une semaine, se retrouve lui aussi la proie d'un immense brasier depuis hier, alimenté par une forte tramontane. Toute la nuit, plus d'un millier de pompiers ont lutté contre les flammes qui ont parcouru 2000 hectares. Ce matin, 300 foyers restaient privés d'électricité. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore mitigé sur un large quart nord-est, ensoleillé partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 17 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Denré pour le prochain journal de la rédaction.